Bonjour à tous. On est légèrement connu, on va dire, puisque connu sous un autre nom, parce que en fait, Manso, c'est pas mon vrai nom. Déjà, ça commence mal, hein, vous allez dire, ça y est, on a une sorte d'espion devant nous. Non, c'est juste les besoins pour Portes Ouvertes, voilà, pour toutes les personnes qui interviennent en public à Portes Ouvertes, nous avons un pseudonyme. Donc c'est pas un hasard si je m'appelle Manso et que je viens du Mans, c'est juste moi qui a choisi ce nom, d'accord? Ou parfois on me dit dans des églises, oh, quel miracle, vous habitez le Mans, vous appelez Manso, et je dois expliquer. Un petit peu connu parce que Elisabeth et moi, lorsqu'on était plus jeunes, on a participé à la naissance de Actival, vous rappelez? Vous connaissez Actival? Au fait, vous savez ce que ça veut dire Actival? On vous l'a déjà expliqué? Quand on l'a créé, ça voulait dire « actif dans le Val-de-Loire ». J'espère que les jeunes sont toujours actifs dans le Val-de-Loire. Charlotte, dis-moi si c'est toujours vrai. Ok, super. Donc à l'époque, Jean-Pierre Dupont, aide-moi, il y avait... Ah, bah Frédéric Rabillon de chez vous. Pardon? Ah, c'est vos enfants? Votre fils? Ok. Il y avait la famille Gisquet, etc. C'était les débuts d'Actival et... C'est super que ça continue aujourd'hui. Voilà, on est très heureux d'être au milieu de vous. D'ailleurs, on a croisé la famille Devergne l'année dernière, puisque j'ai fait une tournée à l'île de la Réunion, et on est allé chez eux, on a pris un verre avec eux, c'était une grande joie de les retrouver. Voilà. Ils sont bien là-bas, hein. Il y a le soleil, il y a les fruits en abondance. Voilà. Alors, voilà au niveau de ma présentation, je ne veux pas aller plus loin, ça fait environ 10 ans que je travaille à Portes Ouvertes à plein temps. Et donc mon rôle c'est d'intervenir dans les églises, essentiellement, on va dire que 90% de mon temps c'est ça, et j'interviens dans toutes les églises du Grand Ouest. C'est pas un titre Grand Ouest, hein, c'est juste parce que c'est un grand secteur qui va de Dunkerque jusqu'à Bordeaux et de Brest jusqu'à la frontière de la région parisienne. Voilà, donc c'est assez exceptionnel que mon épouse m'accompagne parce que en général, je suis plutôt en tournée. Et je remercie l'Église d'avoir permis au dernier moment, il faut le préciser, c'était pas prévu que j'intervienne pour vous parler de l'Église persécutée. J'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez tous la Bible? Alors, pas spécialement sur vous, je vais choquer personne, mais est-ce que vous avez tous la Bible avec vous ou chez vous? Amen. Voilà, ça c'est super. Vous aimez la Bible? C'est important, hein. Je me rappelle d'un témoignage d'un vieux pasteur chinois qui assez cinglant, hein, qui disait « Alors, tous ceux qui ont une Bible, mais qui la lisent pas, ils comptent pas. » Ouf. Tous ceux qui ont une Bible, qui la lisent et qui ne l'aiment pas, ne comptent pas. Tous ceux qui ont une Bible, qui la lisent et qui l'aiment, ce sont ceux-là qui changent le monde. Mais, il a ajouté, cette dernière catégorie est très rare. Bon, c'est pas parole d'évangile, mais ça fait réfléchir quand même, n'est-ce pas? Effectivement, la Bible, c'est vraiment un trésor. Et ça, les chrétiens persécutés, ils en sont absolument convaincus. On a des témoignages incroyables de gens qui... On a notamment un pasteur tchèque qui avait pas de Bible, et sa mère avait recopié des pages de la Bible. Elle avait seulement 10 chapitres de la Bible qu'elle avait recopiés, et pendant 10 ans, il a prêché sur ces 10 chapitres. Et un jour, on lui a apporté une vraie Bible. Il a levé les yeux au ciel tellement c'était extraordinaire pour lui. Il a pleuré. Il a dit « Merci beaucoup pour m'avoir apporté le livre le plus dangereux au monde. » Est-ce que vous aimez toute la Bible? Est-ce que vous aimez tous les versets que vous lisez? On va être honnête, hein? Est-ce que toute la Bible est facile à lire? On est d'accord. Alors, je voudrais commencer par un qui n'est pas facile. Luc, chapitre 14, vous avez vu ces versions cinéma ce matin, hein, le format. Luc 14, versets 25 à 27, il y a des foules qui accompagnent Jésus. Et là, à un moment, il se retourne et dit, super, vous allez tous venir avec moi, ça va être super cool, vous allez voir, c'est facile de me suivre. Non. Il dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle parole difficile, n'est-ce pas? Est-ce que porter sa croix, c'est littéralement porter sa croix comme ça? Ça, c'est un monsieur que j'ai croisé sur le Trocadéro à Paris un jour. Il avait littéralement une croix sur lui et il se promenait comme ça. Bon, c'est un Américain, c'est normal. Ah ben, il y avait quand même une petite roulette pour l'aider. C'était pas un fada, vous inquiétez pas. C'était juste quelqu'un qui voulait interpeller par cette croix. Et ça faisait son effet. Hein. C'est sûr que quand je l'ai vu passer, je suis resté quelques secondes comme ça. Et puis je suis allé le voir et il m'expliquait qu'il faisait ça pour toucher les cœurs. D'ailleurs, tout autour de lui, il y avait une équipe qui distribuait des tracts où c'était écrit « Jésus t'aime » en français. Et en anglais, c'était vraiment l'objectif. Et après, j'imagine qu'il y avait une réunion d'évangélisation derrière. Voilà. Est-ce que c'est ça, porter sa croix? Est-ce que tous les jours, on doit porter sa croix? On va le voir dans cette vidéo. C'est suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Je vous laisse regarder. Le son, s'il vous plaît. Le son. Oh. On recommence. Tout à l'heure, ça a marché. Si, si, il est branché. Ouais. Voilà, je vais remettre au début. J'y vais. Tout à l'heure, ça sortait bien dans les enceintes.
Se voir refuser l'accès à l'emploi.
Bon, allez, une troisième fois. On va y arriver.
Quel est le prix à payer pour suivre Jésus? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix.
God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes.
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand ils souffrent, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix?
Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Vous dites amen à ça? Ils ont besoin de nous, mais nous avons besoin d'eux. Vous avez entendu, c'est l'image du corps. Hein, quand dans le corps, personne ne peut se passer des doigts de pied, on ne peut pas se passer d'une partie de notre corps. Et on fonctionne ensemble, n'est-ce pas? Et le Seigneur, lui, il a une vision planétaire du corps de Christ. Parfois on pense corps de Christ, église, groupe, même voire et pays, mais n'oublions jamais que le Seigneur a une vision planétaire du corps de Christ. Quelques rappels, Portes Ouvertes est née en 1955, pour ceux qui ne nous connaîtrait pas, d'origine protestante évangélique, voilà. Et aujourd'hui, nous avons bien grandi parce que, hélas, la persécution n'a pas diminué, elle a même augmenté. Ça ne doit pas nous surprendre. Vous pensez qu'un jour la persécution va s'arrêter ? Ouais. La Bible est claire, hein. Tant que Jésus n'est pas revenu, l'ennemi va détruire. Parce que derrière la persécution, évidemment, ce ne sont pas des hommes. Hein, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des dominations, des autorités. C'est un combat spirituel avant tout. Nous, nous voyons avec nos yeux, mais derrière tout ça, il faut voir une action du diable et des démons, etc. Donc nous sommes présents dans 25 pays libres et nous sommes actifs dans plus de 70 pays dans le monde. Je ne sais même pas combien nous sommes exactement dans le monde à travailler pour Portes Ouvertes, mais visiblement on serait entre 1500 et 2000 personnes à travailler pour cette organisation. Et nous avons aussi beaucoup de bénévoles et surtout aussi beaucoup de partenaires qui sont sur le terrain et qui nous font remonter des chiffres, des données. Lorsque nous recevons ces données, nous les analysons, nous les comparons avec des données d'autres organisations, et ensuite nous établissons ce que l'on appelle l'index mondial de persécution. J'espère que vous avez remarqué lorsque vous entrez sur votre droite, l'index mondial de persécution, c'est cette carte qui est une photographie, un état des lieux de la persécution dans le monde. Ici, vous avez un état des lieux de 2023. Hein, quand on fait un bilan, c'est toujours en fin d'année. Et vous avez ici donc les pays les plus persécutés au monde avec un système de couleurs. Vous voyez sur la légende que le rouge, c'est persécution extrême. On risque sa vie, concrètement, lorsqu'on vit dans ces pays qui sont en rouge. J'attire votre attention sur le numéro 10. Le 11, pardon. Je sais que d'où vous êtes, vous ne voyez pas très bien, mais le 11, c'est l'Inde. Pourquoi l'Inde ? Pourquoi attirer votre attention sur ce pays, particulièrement ? Est-ce que c'est une dictature, l'Inde, officiellement ? Non. C'est une démocratie. Avec une constitution, comme la nôtre, qui garantit la liberté de religion. Mais depuis 2014, les gens qui sont au pouvoir sont des extrémistes, des nationalistes extrémistes, et surtout qui disent que l'Inde, ils ont une idéologie qui s'appelle l'Hindutva, et qui dit que l'Inde doit revenir uniquement aux hindous, et que les religions étrangères, donc christianisme, islam, ne doivent plus exister dans ce pays. Nous vivons dans une démocratie. Ça ne nous garantit pas la liberté. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier pour nos hommes politiques. Et vous sentez bien que c'est de plus en plus important, n'est-ce pas ? Maintenant, on n'a plus besoin de faire un dessin, hein ? On a compris, et c'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'une fois que des gens sont au pouvoir et qu'ils décident de ne plus protéger tout le monde, hein, c'est ce qui se passe dans la plupart de ces pays. Quelle est la grosse différence avec nous ? Je vous le dis, c'est pas une question de constitution, c'est pas une question d'armée ou quoi que ce soit, c'est juste souvent une question de gens qui sont au gouvernement et qui assurent la sécurité de tout le monde, y compris les minorités, qui ne sont pas corrompues, etc. C'est ça qui fait toute la différence. Aujourd'hui, pour l'instant, nous avons un régime politique stable et avec une justice. Et c'est vrai que si on se fait attaquer, quelle que soit notre religion, il y a une justice. Mais dans la plupart de ces pays, il y a un parti pris, il y a une religion officielle, il y a une différence qui conduit à la discrimination et qui ensuite ne protège plus les minorités. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos hommes politiques. 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde, c'est un chrétien sur sept. Alice, qui nous a hébergés, son mari Pierre, disait hier, il y a quelques années, c'était 1 sur 10. Petit à petit, ça se rétrécit. 1 sur 7. Sans les 6 qui ne sont pas persécutés, et nous faisons partie de ceux-là, alors c'est sûr, on peut dire gloire à Dieu, amen. Mais attention, ça nous donne une responsabilité. Frère André, qui est décédé, disait toujours, nous pouvons abandonner nos privilèges, renoncer à nos privilèges, mais pas à nos responsabilités. Et si on revient à l'image du corps de Christ, on ne peut pas laisser nos frères et sœurs tout seuls. Nous sommes liés et notre responsabilité, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. Sur ce diagramme, vous avez les chrétiens qui ont été justement tués pour leur foi. On est vraiment là, on n'exagère pas les chiffres, je vous assure qu'on est même en dessous de la réalité. On est très très prudent avec les chiffres parce que chaque année, nous allons aussi devant notre gouvernement, à l'Assemblée nationale, nous allons au Sénat, nous allons au Parlement européen, au Conseil de l'Europe. Donc ces chiffres, ils sont donnés et on n'a pas le droit à l'erreur, sinon ils ne nous feront plus confiance. Pratiquement 5000 personnes ont été tuées pour leur foi en 2023 et vous voyez un pays qui se détache énormément, c'est le Nigeria. Le Nigeria est vraiment un endroit très 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 difficile pour les chrétiens. À Noël dernier par exemple, il y a eu une attaque dans un état qui s'appelle l'état du plateau et vous lisez en bas, ça on ne le sait pas dans nos assemblées de Dieu. Un pasteur des assemblées de Dieu a été assassiné avec des membres de sa famille. Ça, malheureusement, au Nigeria, c'est courant. Petite précision, ce n'est pas tout le Nigeria qui est concerné par la persécution. Ce sont les États du Nord. Il y a 12 États, hein, c'est un ensemble d'États comme les États-Unis. Déjà, 12 États sont musulmans, majoritairement musulmans, et on y applique la charia. Et c'est là qu'il y a un groupe tristement connu qui s'appelle Boko Haram. Vous savez ce que ça veut dire, Boko Haram? Non. Je pense pas, peut-être certains frères et sœurs de peut-être originaires d'Afrique. Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché ou est illicite. Donc c'est un message contre nous, Boko Haram. Donc c'est eux qui perpétuent des actions violentes contre les chrétiens. Ils veulent l'application de la charia, ils veulent répandre un islam radical issu du salafisme ou du wahhabisme. Et donc leur objectif, c'est d'islamiser tout le continent africain, mais pas l'islam d'avant. Vous savez, vous rappelez, hein, on est Assemblée de Dieu, l'action missionnaire, tout ça, ça vous parle. Vous rappelez les années où nos missionnaires venaient et nous disaient, on est allé dans le village, on a demandé au chef du village qui était musulman si on pouvait faire une campagne d'évangélisation. Ça s'est bien passé, ça y est, gloire à Dieu, on a ouvert une petite église. Aujourd'hui, c'est devenu très, très, très compliqué parce que dans ces mêmes pays où nos missionnaires ont œuvré, maintenant, ces groupes islamiques répandent la terreur et donc répandent cet islam radical contre les chrétiens, mais aussi contre les musulmans modérés. Hein. Eux aussi sont ciblés. Comment se passent ces attaques? Je vais vous laisser regarder cette vidéo. Il s'agit de Manga, de sa famille, qui ont été victimes justement d'une attaque.
That day we were in our house together with my children in the evening around 7 o'clock.
I opened the window and I saw people coming in, jumping out from the fence with weapons. They were all having knives, shouting, banging doors.
They told my boys to lie down on the floor. Later I saw them bringing my husband inside. They tied them like this at the back. My husband said, "What do you want from me?" They answered and said, "Today is your day, tomorrow is not yours." So when I heard this, I started praying. I said, "God, I don't want to do it. Please help me, Lord." I started praying.
They started with my dad, and I heard him praying. Then they slaughtered him there. Then next, it was me. I began praying the Lord's prayers, Psalm 23, "The Lord is my shepherd," and Psalms 118, "I shall not die but live." No, and something surprisingly happened. The pain which I assumed I'm going to be feeling when I'm being slaughtered is not there. It's just this dizziness, and I went unconscious. At first we were shy of this car. You know, it's something that attracts attention. But later we came to realize it's a testimony. It's an evidence of the existence of God.
Praise the Lord.
This incident has affected my life in so many ways, but it has really increased my faith. No matter what the enemy will do against you, if your time has not yet come, there's nothing the enemy can do about it. Paul the Apostle said he suffered all this for Christ, but above all, he should count it all joy. This word kept pounding in my heart. I should count it all joy. But with this hatred of what these people did, count it all joy. But again, with the second chance God gave me, that joy had to exist. God is there. He loved you in spite of your challenges, your condition, whosoever you are. It's not for who you are, but God just loves you.
Vous avez vu les cicatrices hein, de Manga et son frère. Je sais qu'on se pose la question, mais pourquoi Dieu a sauvé ces deux garçons et pas le papa? C'est une question qu'on ne sait pas répondre. Pourquoi Dieu a sauvé Daniel et ses amis de la fosse au lion, de la fournaise ardente? Pourquoi il a laissé Étienne se faire lapider? Est-ce qu'Étienne était moins spirituel? Bien sûr que non, hein. C'est précisé qu'il était rempli de l'esprit. Donc nous n'avons pas d'explication. C'est un mystère. Mais c'est ainsi. Est-ce que vous avez remarqué de la haine dans le discours de Manga? Un désir de vengeance? Non, il parle même de joie. L'épreuve doit nous procurer de la joie parce que, en réalité, l'épreuve va nous faire grandir en maturité. Ça va renforcer notre foi. Et ce que je remarque dans l'église persécutée, c'est que le diable voudrait détruire la foi des chrétiens, mais c'est l'inverse qui se passe. La plupart du temps, ça devient des géants de la foi. On dit héros de la foi. J'aime pas trop ce terme parce que eux n'aiment pas du tout ça. À chaque fois qu'on évoque ça, ils disent non. On est des gens absolument comme vous. Avant, on n'était même pas sûr de pouvoir tenir. On a résisté, mais c'est grâce à Dieu. Autre diagramme. Ici, vous avez le nombre d'églises qui ont été ciblées en 2023, attaquées. Et là, on voit la Chine, vraiment 10 000 églises. Il faut dire qu'actuellement, c'est le pays du monde où il y a le plus de chrétiens. On parle de 100 millions de chrétiens en Chine. Il y a eu un véritable réveil il y a quelques années en arrière. Mais l'actuel président Xi Jinping est un homme de fer qu'on compare beaucoup à Mao Tse-tung, hein, ce qui n'est pas une bonne référence, et qui persécute les chrétiens d'une autre manière. Mao Tse-tung était beaucoup dans la violence, les camps à la russe, vous voyez. Aujourd'hui, on est dans le contrôle absolu. Grâce aux intelligences artificielles, grâce aux caméras, etc., aujourd'hui, on est capable de contrôler beaucoup plus un peuple et ensuite de le discriminer. Par exemple, de l'empêcher de mettre ses enfants à l'école ou d'empêcher les enfants de faire des études supérieures. On va voir là aussi une vidéo.
Je me sens observé en permanence. Quand mon père a découvert que j'étais chrétien, il m'a dénoncé aux autorités. Ils m'ont assigné à résidence. J'ai dû arrêter mes études.
Ming appartient à un groupe ethnique minoritaire en Chine qui fait l'objet de pressions et d'une surveillance constante de la part du gouvernement.
La situation est devenue si difficile que j'ai dû quitter ma ville natale et repartir de zéro. J'ai créé une nouvelle entreprise qui a bien marché. Cependant, mon beau-père a empêché ma femme et ma fille de me voir à cause de ma foi en Jésus.
Malgré cela, Ming restait fidèle dans son appel à servir sa communauté.
Je distribue des Bibles car je sais que Dieu m'a appelé à partager l'Évangile. C'est un risque énorme. Je pourrais être arrêté, interrogé et même emprisonné.
Ces activités de contrebande de Bibles ont fini par être découvertes. La police est venue chez lui pour l'arrêter. Ming et ses partenaires ont été interrogés, reconnus coupables et condamnés. Ming a évité la prison, mais il a perdu son entreprise, qui était sa principale source de revenus.
Je n'ai plus le droit d'aller à l'église, ni même de posséder une Bible. Je me sens parfois isolé et seul. La police a le droit de venir fouiller ma maison un mois sur deux. La population est encouragée à dénoncer les activités chrétiennes suspectes.
En raison des risques, Ming est très prudent lorsqu'il rencontre d'autres chrétiens. Deux fois par mois, des partenaires de Portes Ouvertes lui rendent visite pour l'encourager dans sa foi et lui apporter un soutien spirituel, pratique et financier. Et surtout pour prier et lire la parole de Dieu ensemble. Chaque jour, Ming court le risque d'être arrêté et emprisonné pour avoir partagé l'Évangile. La persécution, le contrôle et la surveillance numérique augmentent en Chine et dans le monde entier. Vos prières urgentes et votre soutien aident des croyants comme Ming à continuer à vivre leur appel, tant qu'ils le peuvent encore.
Voilà, la surveillance numérique s'est souvent présentée pour notre sécurité. Et ça, encore une fois, ça va bien lorsqu'on vit dans un pays où on a une vraie démocratie. Et il suffit que, voilà, on tombe sur un régime politique plus dur, hein, plus déterminé dans une idéologie, et là, ça se transforme en persécution. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Inde. Je ne vais pas trop revenir, mais donc beaucoup de discrimination, beaucoup de persécution depuis 2014. La bonne nouvelle, c'est que l'Évangile n'arrête pas. Au contraire, on va dire que depuis 2014, il y a eu de plus en plus de gens qui quittent l'hindouisme, d'où la persécution. Parce que je rappelle que souvent, pourquoi les chrétiens sont persécutés, c'est parce qu'ils abandonnent leur religion d'origine et qu'ils se convertissent. C'est la raison numéro un de la persécution dans le monde. Et donc en Inde, à chaque fois que des hindous quittent l'hindouisme et deviennent chrétiens, c'est la discrimination et voire la persécution violente. Et donc c'est dans ce climat que nos frères et sœurs continuent de vivre leur foi, et c'est difficile aussi pour les pasteurs. Il faut savoir qu'en Inde maintenant, il y a carrément des lois anti-conversion. Tout à l'heure, je vous ai dit que la constitution garantit la liberté de religion. Eh bien eux, ils votent des lois anti-conversion. Et donc ceux qui sont visés les premiers, c'est les pasteurs. On les accuse de convertir de force, bien sûr, les hindous à l'hindouisme. Et dernière loi qui nous a surpris encore plus, comme ils ont remarqué que l'évangile se répand essentiellement par les guérisons, eh bien, il y a un État qui a décidé, ou je ne sais pas si c'est fait, mais qui a un projet de loi qui interdirait de prier pour les malades. Ce qu'ils appellent la prière miraculeuse, ça sera interdit. Voilà. Bon, je crois pas que l'évangile va s'arrêter pour ça, mais en tout cas, voilà ce que l'ennemi essaye de mettre en place. Là aussi, on va voir une vidéo d'un pasteur qui nous raconte ce qui s'est passé pour son église.
நான் 18 வயசா இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்னோடு கூட ஏசாயா 43:1 நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடைய வார்த்தையின்படி ஆனா இருந்தாலும் கூட அந்த சபையை ஆரம்பிக்கணும் ஒரு சேலஞ்சா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அதை ஆரம்பிச்சு. ஏழு வருஷம் நான் வந்து பர்சனல் எவாஞ்சலிசம், சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இது மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அது மூலமாக தான் என்னன்னா ஒரு 30 பேர் என்ன பண்ணாங்க, இயேசு ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அதன் பிறகு தான் 2008 அந்த இடத்துல சபையை என்ன பண்ணோம், ஸ்தாபித்தேன். அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட இரவு நேரத்தில் விடிய காலத்தில் எனக்கு ஒரு கால் வந்தது, இது மாதிரி சபை எழுந்து கொண்டு இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை பார்க்கும்போது ஃபுல்லா தீ எரிஞ்சிட்டு இருந்தது தான் பார்த்தேன், ஒழிய மற்றபடி ஒண்ணுமே பார்க்க முடியல. அது என்னன்னா ஒரு மாதிரி பெட்ரோல் மற்றபடி ஒரு கெமிக்கல் வாடை தான் வந்துச்சு. டோசி முதல் கொண்டு எல்லாமே சாம்பல் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன யோசித்தனா, கர்த்தர் கொடுத்தா கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்ட, இனிமேல் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறாரா தெரியல. அப்படிப்பட்ட நேசத்தை இருதயத்தோடு இருக்கிறார். அதனாலதான் அநேக மிஷினரிகள் எழும்பி இருக்கிறாங்க, அநேகர் ஆண்டவரை பற்றி சொல்றாங்க. நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, ஆனால் உங்களுடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன்.
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் யாக்கோபுக்கு எழுதின நிருபம் 1 2-4 வரை. என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது.
Et vous plaît le baptistère? On chante souvent Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni ou béni soit Seigneur. Moi, j'avoue que j'ai du mal à chanter ça et je préfère y réfléchir que le chanter. Parce que franchement, quand le Seigneur reprend, c'est pas facile. Mais ce qui m'étonne et ce que j'aime beaucoup, c'est que lui dit « Qu'allait faire Dieu à présent ?» Vous avez remarqué ? Il a dit « Dieu avait donné, Dieu a repris. » Et « Qu'allait faire Dieu à présent ?» Quel optimisme, n'est-ce pas ? Pour lui, c'était pas une fin. C'était forcément une suite. Dieu n'allait pas s'arrêter là. Et la conséquence, vous avez eu, c'est qu'il a doublé son église. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Sur cette diapo, vous avez le nombre de chrétiens qui ont été détenus au cours de l'année 2023. Vous voyez l'Inde. Et puis à côté, le nombre de chrétiens qui sont kidnappés. Et là, on retrouve le Nigeria. C'est le deuxième fléau au Nigeria, le kidnapping. Dans les chrétiens qui sont détenus, je voudrais vous citer Kiflou. Cet homme est en prison depuis 20 ans cette année. Il a jamais eu de procès. C'est un pasteur évangélique, pentecôtiste, parce qu'en Érythrée, les seules églises qui sont validées par le gouvernement, ce sont les catholiques, les luthériens, et je ne sais plus le troisième, mais en tout cas les évangéliques, non. Et donc, en particulier, les pentecôtistes sont vraiment beaucoup persécutés, parce que très souvent, c'est ceux qui où l'évangile avance le plus, hein. Il y a beaucoup d'évangélisation, et lui, il est en prison depuis plus de 20 ans. Donc j'aimerais vraiment laisser son prénom sur votre cœur, Kiflu, s'il vous plaît, pensez à lui. Il n'a même pas vu grandir ses enfants. Voilà. Je vous disais, les enlèvements, c'est courant, très 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 courant dans le nord du Nigeria, et maintenant même au nord du Cameroun, hein, puisque la frontière est très fine, et ces groupes islamiques vont jusqu'au Cameroun, ils vont dans les villages. Souvent, c'est pour piller, mais en même temps, ils kidnappent les jeunes garçons et les jeunes filles, et les jeunes filles sont converties de force, mariées de force. Et là aussi, je vous laisse regarder un autre témoignage. Ici, il s'agit de Rebecca Charibou, qui nous raconte ce qui s'est passé pour sa fille et qui nous demande aussi de prier pour elle.
Dia. Niche maman qui lia. Ina nipa miki reswa. Atiki suna yesu ane. Ina nipa godia. Aduk inda kiki. Allah ya kare ki. Muma muna miki adua. Dere darana.
Léa Charibou a été kidnappée en février 2018 à l'âge de 14 ans. Elle a été enlevée avec plus d'une centaine d'autres filles de son école à Dapchi, dans le nord du Nigeria. Les enfants ont été enlevés par les combattants de l'État islamique de la province d'Afrique de l'Ouest. Après un mois de négociations, toutes les filles encore en vie ont été libérées, sauf une.
Naje na tambaye mutanen ƴan matan da suka dawo sai na tambaye su na ce ya akai aka balle a can suka ce lokacin da aka tara su za a kawo su sai suka ce wane Christian a cikin ku sai tana kokarin daga hannunta sai suka ce kar ta daga ta su ce dukkan su musulmi ne sai ta ce a'a sai ta daga hannunta ta ce ita Christa ce sai suka ce to tun da ke Christa ne sai kin karbi kalmar shahada kafin nake shiga mota sai ta ce ita ba za ta karbi alkalmar shahada ba don ita ba musulmi bane ita krista ne sai suka ce to kun da ke ba za ki karbi kalmar shahada ba to ke ba za a tafi da ke ba za a barki anan sai ta ce to ita kan ta yarda ba za ta zauna anan don gaskiya ba za ta iya ta karbi kalmar shahada ba don ita ba musulmi ba.
Depuis lors, Léa est restée avec ses ravisseurs. Des témoins indiquent qu'elle a été mariée de force à l'un des commandants. Elle aurait même donné naissance à deux enfants. Le kidnapping est devenu une activité lucrative au Nigeria. Chaque année, des milliers de Nigérians sont enlevés par différents groupes. Les islamistes radicaux enlèvent aussi bien des chrétiens que des musulmans modérés, mais les chrétiens sont leur cible de prédilection. En règle générale, ils traitent les chrétiens bien plus durement que les musulmans. Merci de prier pour nos frères et sœurs du nord du Nigeria. Ils sont la proie de toutes sortes de discriminations et de violences. Les enlèvements n'en sont qu'une partie. Priez pour leur protection et priez pour que le gouvernement nigérian, élu en début d'année, trouve de nouveaux moyens de protéger ses citoyens. Cette année, Léa Charibou a eu 20 ans. C'est la sixième fois qu'elle vit son anniversaire en captivité. Prions pour qu'elle soit bientôt libérée, mais tant qu'elle reste captive, prions pour qu'elle fasse l'expérience de la grâce et du soutien de Dieu au quotidien.
Parce que, ni ayanda taï. Nayi mata nayi mata godiya yanda ta tsaya wannan naji dadi sosai kuma muna mata addu'a in Allah ya yarda ba abin da yafi karfin Allah wata rana za ta dawo ina roƙon ku ƴan uwa a cikin Kristi kamar yanda kuna yi dama ba a bari ba amma ina roƙo har yanzu a ci gaba da addu'a ubangiji ya kubuta mana da ita a cikin sunan Yesu nagode muku. Thank you.
Voilà un autre prénom à retenir, Léa, si vous voulez prier pour elle. Et pensez à toutes les autres jeunes filles, hein, parce que ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres derrière. Là aussi, ce que je retiens, c'est comment Léa porte sa croix. Hein. Elle suit Jésus, quel qu'en soit le prix. Et le prix pour elle, c'est sa liberté. Quelque chose à laquelle on est tous très, très attachés. Et elle, elle a abandonné sa liberté pour suivre Jésus. Que Dieu honore la foi de sa maman et que Léa soit bientôt libérée. Nous faisons beaucoup de séminaires d'accompagnement et notamment un séminaire qui s'appelle post-traumatique parce que toutes ces personnes, vous l'avez bien compris, subissent d'énormes traumas et c'est important de les accompagner. Cette dame a subi beaucoup de traumas. Elle, sa fille ont été enlevées par Boko Haram. Aujourd'hui, sa fille est décédée suite à des complications médicales. Et vous voyez, c'était pas une super héros. Et ça, j'aime bien le préciser. Ce sont des personnes comme nous, avec leurs failles, leurs faiblesses. Et c'est dur de suivre Jésus. Et c'est là toute l'importance du corps de Christ. Vous voyez, elle dit qu'elle était, elle avait même l'idée de se suicider. Et nous sommes intervenus avec les dons qui sont faits par les églises libres pour pouvoir carrément lui construire une maison. Et ainsi lui donner un nouveau départ dans sa vie. Et aujourd'hui, elle remercie beaucoup le Seigneur et l'Église. Elle vous remercie parce que grâce à vous, grâce à nous, elle peut continuer d'avancer. Et là, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais elle dit même que, eh bien, elle reverra sa fille dans le ciel. Et voilà. Donc, merci pour votre aide. On va terminer par la Corée du Nord. Avant d'avoir un court message avec vous, parce que je crois que je suis déjà bien avancé au niveau du temps, la Corée du Nord, c'est le pays numéro 1 hein, depuis très 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 longtemps. Il y a une seule année sur les 31 ans hein, d'index qu'elle n'a pas été première. Donc c'est un pays avec 10 dictateurs. Hein, on est à la troisième génération de dictateurs. Kim Il-sung, le fondateur, hein, celui qui est resté très très longtemps, qui est vraiment considéré comme le dieu de son pays. Ensuite, il y a eu son fils, Kim Jong-il, et là, on a le troisième, Kim Jong-un, qui sourit pas. On a fait un petit comparatif dans la Bible, parce que c'est très rare, hein, une dynastie de dictateurs. En général, les dictateurs, voilà, c'est tellement violent que soit ils s'entretuent, soit voilà. Mais dans la Bible, on retrouve la dynastie des Hérodes. Vous vous rappelez, le premier, c'est celui qui a fait tuer les enfants de moins de 2 ans. Le deuxième, celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et le troisième, racontez-moi comment il est mort pour savoir si vous connaissez bien votre Bible. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Je vous écoute. Exactement. Je ne sais pas qui l'a dit. Voilà, effectivement. Il a été rongé par les vers. Vous vous rappelez, hein, la foule a scandé voix d'un dieu et non d'un homme en parlant de lui. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu le frapper et qu'il est mort, rongé par les vers. Triste fin. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la famille Kim, hein, mais nous, on ne doit pas demander qu'il soit rongé par les vers. Hein. On doit prier pour lui. Hein. La Bible nous dit de prier pour nos ennemis. Et Jésus avait ajouté une petite précision, parce que vous vous rappelez, à un moment donné, les disciples sont allés dans les villages, ils n'ont pas été bien accueillis, et quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit quoi? Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu descende sur eux? En gros, que tu les extermines tous. Et Jésus les a repris sévèrement, il a dit non. Ne priez pas pour du mal pour eux, mais priez pour du bien pour eux. Ça, c'est, il ne faut pas se poser trop de questions, hein. Si vous réfléchissez trop à ça, vous allez dire « Non, je ne peux quand même pas prier pour des gens aussi horribles !» C'est un acte de foi, mes amis. Il faut juste obéir et pas se poser de questions et faire ce que la Bible nous demande. Autre parallèle, hein, dans la Bible, ça c'est la statue de qui ? Fait école du dimanche un petit peu ce matin. Un nom un peu imprononçable. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Voilà, roi des Babyloniens, vous vous rappelez ? Ceux qui ont déporté le peuple juif. Et à côté, nous avons les statues actuellement en Corée du Nord, avec, remarquez la similitude, les gens sont courbés devant. Ça, c'est obligatoire en Corée du Nord. Il y a plein de statues, hein, je crois qu'ils ne sont pas trop d'accord, 30 000, ils ne savent plus trop.
Et les gens doivent s'incliner. Donc s'il y a des gens qui font l'école du dimanche ici, précisez bien que cette histoire, elle est toujours d'actualité. Ça existe encore aujourd'hui. On va regarder une dernière vidéo, c'est B. Là aussi, je trouve un témoignage très touchant. Alors, vous avez bien remarqué que la plupart des vidéos, hein, ce sont des reconstitutions, bien sûr. Hein. Et B, c'est une reconstitution.
Mon cher frère, nous sommes en bonne santé et en paix grâce à Jésus-Christ et à vos prières. Je suis très émue au moment où je t'écris parce que nous avons reçu vos cadeaux que nous ne serons jamais en mesure de vous rendre. Lorsque notre Bible a été trouvée, elle a été immédiatement détruite. Et parce que nous sommes chrétiens, nous avons été exilés dans un village éloigné sans possibilité de repartir un jour. Le travail ici est dur. Les rations sont limitées. Nous avons faim en permanence et nous sommes régulièrement malades. Nous devons chercher de la nourriture pour survivre. Mais chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je sens la présence de Anonyme, le Seigneur, et je remercie notre Dieu que j'ai encore assez de force pour le servir. Même si ça a été très difficile, j'ai pu récemment traverser la frontière chinoise. Là, j'ai rencontré d'autres chrétiens. Ils m'ont donné de la nourriture, des médicaments et, par la grâce de Dieu, une nouvelle Bible. On m'a proposé un endroit où me réfugier en Chine. Cela aurait signifié la liberté. Mais je ne pouvais pas abandonner ma famille et mon église, même si elle est petite. De ton point de vue, mon frère, notre souffrance doit apparaître comme le symptôme d'une vie maudite, mais nous la voyons comme une bénédiction, car elle est un raccourci vers le Père. J'ai encore une requête, mon frère. Fais parvenir nos remerciements à ceux qui continuent de prier pour nous. En retour, nous tiendrons bon, et nous continuerons à répandre l'Évangile dans toute la Corée du Nord. Ta sœur en Christ, B.
Quand vous passez par l'épreuve, comment vous ressentez ça? Est-ce que parfois on n'est pas aussi dans la même situation et on pense que c'est les symptômes d'une vie maudite? B dit que c'est un raccourci vers le Père. Quand est-ce qu'on est le plus proche de Jésus? Quand tout va bien ou quand ça va mal? Eh oui, c'est souvent quand ça va mal. C'est là qu'on vient voir le docteur Jésus. Évidemment, il faut pas juste aller voir Jésus quand ça va mal, mais tout au long de l'année. Alors, je voyage chaque année dans un pays persécuté. C'est toujours des voyages exceptionnels, des rencontres exceptionnelles. Et je me souviens qu'une année, je suis allé en Égypte. Et à la fin, lorsqu'on allait se quitter, on a demandé un sujet de prière. Et notre guide, qui était chrétienne, nous a dit... Ne priez pas pour que la persécution s'arrête. Alors on l'a fait répéter parce qu'on a cru qu'on n'avait pas bien compris. Elle a dit non, vous avez bien compris. Ne priez pas pour que la persécution s'arrête. C'est surprenant, hein? Et là, elle a précisé, on ne s'est jamais senti aussi vivant que depuis que nous sommes persécutés. En fait, la persécution active la foi. Vous savez que dans l'Apocalypse, il est question de froideur, de tiédeur et d'être bouillant. Ça, c'est que pour chez nous. Dans les pays persécutés, la case du milieu n'existe pas. Soit on est froid, on abandonne la foi, c'est trop dur. Soit on est bouillant. Parce que chaque jour, on doit être en relation très, très, très étroite avec Jésus pour tenir bon. Nous, on vit dans un pays libre, n'est-ce pas? Je vois que les portes sont ouvertes. Hein, on ne s'est pas caché pour venir. Et nous, il y a un autre danger qui nous guette. Matthieu en parle, c'est Jésus. Vous vous rappelez où ça se passe, ça? Il est où Jésus à ce moment-là? À Gethsémané. C'est juste avant d'être crucifié. Et vous vous rappelez ce qui se passe? Il demande à ses disciples, parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est... Vous imaginez un homme qui sait qu'il va être crucifié quand même? Et là, il demande l'aide de ses disciples. S'il vous plaît, priez avec moi. C'est ce que demande l'Église persécutée, d'ailleurs. S'il vous plaît, priez avec nous. Et eux, ils vont s'exécuter. Seigneur, oui, bien sûr, on va prier avec toi, n'est-ce pas? Hélas, ils vont s'endormir. Trois fois. Et Jésus va les reprendre à la fin. Ma méditation, qui va être très courte, je vous rassure, c'est le sommeil nous guette ici. C'est ça le problème. Ça, c'est un autre point où le diable va appuyer, bien sûr. Parce que derrière tout ça, il y a toujours quand même l'ennemi de notre âme qui appuie là où ça fait mal, bien sûr. Il est peut-être pas responsable, il n'est pas responsable de notre confort. Hein. C'est pas lui qui nous donne une voiture, du travail, une belle maison, des loisirs, bien sûr que non. Tout ça, c'est Dieu qui nous donne ça. Le diable, il donne pas des bonnes choses. Par contre, il sait que plus on va s'attacher à ça, et moins on va s'attacher au Seigneur. C'est très facile. Sa stratégie est très, très, très efficace. Hélas, pour l'instant, on parle pas de réveil hein, dans les pays occidentaux. Mais on parle de réveil, par exemple, en Iran, République islamique. On parle de 1 million de convertis actuellement en Iran. Waouh! Quelles sont les causes du sommeil? Vous connaissez Eutychus? Où est-ce qu'on trouve ce gars-là? Ouais, dans la Bible, hein? Il s'est endormi au bord de la fenêtre. Bon, là, les fenêtres seraient difficiles. Mais pourquoi il s'est endormi? J'ai essayé de réfléchir à ça. Déjà, on sait qu'il s'est mis au bord d'une fenêtre, donc pas de carreau à l'époque. Et je me dis, le gars était quand même malin. L'histoire nous dit que l'endroit était rempli et que le prédicateur était très long. Oui, ça n'a pas changé. Et on peut se dire tout de suite, ouais, mais le prédicateur devait vraiment pas être passionnant pour qu'il soit endormi. Excusez du peu, c'était Paul. Donc déjà, tous ceux qui disent c'est de la faute du pasteur, hein, ok. Il s'est endormi, pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans une position confortable. Bord de la fenêtre, donc il peut poser son dos, alors que la plupart étaient sans doute assis à même le sol. Lui, il a de l'air quand même, hein. Et rappelez-vous, on est dans un pays chaud. Et puis, il peut regarder ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a dedans. Il n'est peut-être pas forcément toujours dedans, et parfois il est dehors. Hein. Et la Bible nous dit qu'il s'est assoupi, et il a chuté. Boum, et il est mort. Et heureusement, Paul est descendu, il a prié pour lui, et il l'a ressuscité. Hein. Et donc, il a pu continuer de vivre. Je trouve que cette histoire, elle est intéressante. Parce que le confort, encore une fois, c'est pas un péché. Hein. Rassurez-vous, je ne veux pas vous dire que ça y est, il faut tout vendre. Et le confort, c'est pas un péché, c'est une bénédiction du Seigneur. Mais ça peut devenir un péché à partir du moment que ça prend la place du Seigneur. Vous savez ce qu'a dit la Bible, hein? Cherchez d'abord votre confort et vos loisirs et toutes vos distractions. Et puis après, s'il vous reste un petit peu de temps, ce sera pour moi. Et non. C'est l'inverse. Mais nous, on est des êtres faibles, n'est-ce pas? Et ça fait quand même plus de bien des bonnes choses que servir le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire, là, dans notre chair. Et c'est difficile, évidemment. Je crois que Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, si je peux le paraphraser, et tout le reste, c'est cadeau pour vous. » Tout le reste, c'est cadeau. Mais attention, ça se négocie pas. Moi, en premier, quel que soit l'endroit où tu vis, quelle que soit ta situation, c'est moi en premier. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre évangéliste Moody, un Américain. Il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit « Nos excuses ». Et on est rempli d'excuses hein, lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. « Ah non, là, Seigneur, tu sais, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas lire ma Bible parce que je suis trop fatigué. Je ne peux pas... Enfin, je peux pas venir à l'église pour la prière, pour telle et telle raison, je peux pas. Je me permets, hein, je suis pas de votre église, j'accuse personne. On a plein d'excuses lorsqu'il s'agit de suivre Jésus. Et lui, il a dit, toutes nos excuses, enfin nos excuses, sont le berceau dans lequel le diable nous endort. Ah, t'as raison, hein. Mets ça en premier, tu vas voir, c'est super. Et comme ça, tu vas bien faire dodo et tu vas pas me gêner. C'est terre à terre ce que je dis, mais c'est la réalité, ça. S'il y a un choix qui se présente à moi, je suis toujours tenté de choisir ce qui est plus facile, en tout cas ce qui est plus agréable pour ma chair, ce qui va me coûter le moins. Notre chair, elle aime la facilité, bien plus que la difficulté. Que nous soyons comme David, le psalmiste qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et ça ne nous empêche pas de dire merci au Seigneur pour toutes les bénédictions matérielles qu'il nous donne, parce que même si on travaille dur pour ça, derrière, c'est toujours lui qui nous donne la grâce de bénéficier de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester éveillé? Hein, Jésus l'a dit à ses disciples. Hein. Il leur a dit quoi? Veillez. Luc chapitre 12 dit aussi, restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, et ils l'ont entendu ce matin. Parti pour une noce, dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre, heureux ses serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller, pas en train de dormir, en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, c'est le maître, il les fera asseoir à table et c'est lui qui les servira puisqu'il passera de l'un à l'autre pour les servir. Gardons notre lampe allumée, notre relation avec le Seigneur, journalière. Pas quand je dis, oh ben là, peut-être que ça va être le moment, hein, après avoir fait tout ce que j'avais à faire, et puis épuisé toutes mes distractions, je vais peut-être pouvoir passer un petit temps avec Jésus. Ça ne nous permet pas de garder notre lampe allumée. La lampe allumée, c'est la clarté, c'est la lumière qui permet de nous éclairer sur tout ce qui nous entoure, parce qu'on l'a entendu ce matin, le péché est à notre porte. Et on a besoin de cette lumière pour rester en éveil. Rappelez-vous que le maître de l'histoire, il vient pas de jour, hein. Il va venir la nuit, au moment où on s'y attendra pas. Soyons en tenue de service. Il y a plein de choses à faire pour le Seigneur. Déjà, la prière. Hein, c'est ce qui est le plus important, de prier pour vous, justement pour que vous puissiez tenir les uns les autres. Hein, c'est le corps de Christ, c'est aussi nous, hein. Si j'en vois un qui vient plus à l'église, ben qu'est-ce que je fais? Oh, pourquoi il vient plus à l'église? Non, je vais prier pour lui. Peut-être je vais me renseigner ou aller voir le pasteur, mais en tout cas, notre rôle, c'est pas nous accuser ou nous persécuter entre nous, hein, mais c'est de nous soutenir afin que nous tenions bon. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Et rappelons-nous, c'est une course d'endurance. Nous, on est bien placés au Mans pour ça, n'est-ce pas? On a les 24 heures du Mans, et ce qui fait la célébrité de cette course, c'est la durée. C'est une course d'endurance. Derrière, il y a une équipe. Ils travaillent tous ensemble. Et quand ils franchissent la ligne d'arrivée, je vous assure que c'est la grande joie parce que ça a été énormément d'efforts pour arriver à rouler 24 heures. Ma conclusion, elle est très simple. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. C'est les paroles de Jésus à Gethsémané pour ne pas céder à la tentation. Les chrétiens persécutés, ils sont éveillés grâce à la persécution en réalité. C'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, encore une fois, ils sont pareils. Mais ce qui les garde éveillés, c'est qu'ils sont dans ce combat permanent. Alors eux, il est visible, il est facile à identifier, n'est-ce pas? Nous, il est beaucoup plus sournois. C'est très sournois chez nous. On s'en rend pas compte, mais c'est là. Et l'objectif est toujours le même, nous séparer de Dieu. C'est ça la persécution. Nous séparer de Dieu. Parce qu'à partir du moment que nous sommes séparés de Dieu, ça y est, il a réussi. Et ensuite, il sera facile pour lui de nous dévorer. Hébreux chapitre 12 nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance. L'épreuve qui nous est proposée, vous avez bien vu que c'est l'épreuve, n'est-ce pas? Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a offert
le chemin de la foi et qui la porte, on l'a entendu ce matin aussi, à la perfection. Les épreuves, loin de nous détruire, vont nous porter à la perfection. Frère André, qui est décédé en 2022, disait « L'ennemi est féroce et il veut que nous pensions qu'il a gagné. » Mais je crois que ces deux petits points levés là, ou ces deux gros points, en disent long. Il voulait se battre. Il s'est battu pour l'Église persécutée. Maintenant, c'est à nous de continuer. Hébreux chapitre 13, verset 3 dit « Souvenez-vous des prisonniers. » Et il y a une autre version qui dit même « Faites-vous du souci. » C'est encore plus fort pour eux, comme si vous étiez en prison avec eux, de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Prions. Mettons-nous à genoux, prions. Lui disait, si on savait combien Dieu est grand, combien, si nous avions conscience de la puissance de la prière, nous serions à genoux 100 fois par jour. Voilà, quelques sujets de prière. Pourquoi l'Afrique en particulier? Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la carte tout à l'heure, mais l'Afrique est de plus en plus concernée. Au départ, il y a 31 ans, il y avait 10 pays dans l'index en Afrique. Aujourd'hui, on a pratiquement tout le continent africain. Alors je sais, c'est pas parfois tout le pays, par exemple le Congo, c'est une partie du Congo. Mais voilà, beaucoup de sujets que je vous laisse peut-être retenir. La paix, prions pour les ennemis, c'est important. Prions pour tous ceux qui ont été enlevés. Pensons à Léa, pensons à ce pasteur qui floue, etc. Prions pour que ces chrétiens y tiennent ferme et qu'ils puissent pardonner. Alors comment vous pouvez agir? Bon ben voilà, prier déjà, ça c'est extraordinaire. Si tout le monde pouvait prier pour l'Église persécutée, ça serait génial. Et pour ça, on vous propose de vous abonner à notre magazine. Alors c'est pas pour faire du commerce, je vous rassure tout de suite. Parce que le magazine, on va vous demander 11 euros par an et vous allez recevoir un magazine par mois dans votre boîte à lettres. Donc sincèrement, c'est pas une histoire d'argent. Sachant que même là, si vous souscrivez à la sortie, je vais vous demander que 5,50 euros et vous serez abonné pour déjà une première année. Et donc il y a juste ça à remplir, votre nom, vos coordonnées, et ensuite, si vous pouvez donner 5,50 euros, en espèces, en carte bleue, peu importe. Vraiment, l'objectif derrière, c'est de rester connecté avec l'Église persécutée. Vous allez voir, ça va vous exhorter aussi dans votre foi. Et puis, à l'intérieur, il y a une circulaire de prière avec tous les jours un sujet. Donc, c'est pas compliqué. Chaque jour, je peux savoir pourquoi je peux prier, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Ensuite, on a toutes sortes de moyens d'action. On propose des voyages dans les pays persécutés. On propose des challenges sportifs. Il n'y en a pas dans la région, mais si vous voulez l'organiser, pourquoi pas. Nous soutenir financièrement, devenir bénévole localement. Mais je sais que Alice, déjà, elle a pris le relais de Madame Clark, c'est ça. Et il faudrait juste qu'on l'encourage en l'applaudissant. Voilà. On peut écrire aux chrétiens persécutés et nous organisons aussi des événements. Le prochain, ça sera les 26 et 27 octobre. Ça se passera dans le 77 à Dame Marie-Lélis. Je pense qu'il y en a qui ont déjà participé ici. Il y en a qui sont déjà venus. Voilà, David, il y en a d'autres. Oh, bah tout le monde va s'inscrire alors. Ça sera donc le thème cette année, ça sera « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ ». Vous connaissez ce verset de Romains 8. Et à cette occasion, nous aurons des témoins. Tout à l'heure, vous avez vu Manga. Manga a fait partie, il y a 2 ans en arrière, des invités. Donc cette année, il y aura aussi des invités comme Manga. Il y aura des gens qui viendront de Syrie, etc., d'autres pays. Et c'est une grande salle qui contient 1500 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Soit en flashant ce QR code ou de toute façon si vous vous abonnez vous aurez toutes les informations nécessaires. Un grand merci de votre patience. N'hésitez pas à vous arrêter sur le stand à la sortie, soit pour vous abonner, soit pour acheter des livres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.